La communauté maritime des îles de la Madeleine est fière de vous présenter la chronique Parlons aménagement.
9h40, Parlons aménagement avec Serge Bourgeois, qui est directeur des projets de développement de territoire. Serge, bonjour.
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 Volet 2 cette semaine, c'est quoi un schéma d'aménagement? C'est une grande question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui.
Ben, on ne te la posera pas, hein, parce que la semaine passée, je t'ai posé Annie, puis là, peut-être bien que tu as été étudié pendant ce temps-là. Puis,
c'est ça.
Tu vas tricher.
Ah. Il fait ses devoirs.
Oui, c'est ça.
Mais la semaine dernière, on a plutôt axé sur l'historique, où ça venait et pourquoi. Aujourd'hui, on va parler plus du contenu. Fait que là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Écoutez, un schéma d'aménagement, d'abord, c'est aussi... La semaine passée, Annie, on a parlé, bon, ça organisait le développement du territoire, les grandes lignes, mais avant d'être capable de décider comment on organise le territoire, il faut d'abord faire une description de son territoire. Et le dernier schéma d'aménagement, comme on a dit la semaine dernière, ben, il a été révisé en 2010. Maintenant, depuis 2010, est-ce qu'il y a eu des changements territoriaux, socio-économiques? On va faire un peu la liste de qu'est-ce qu'il y a dans le schéma d'aménagement, puis on va se poser la question. Vous allez voir, c'est quand même assez, assez notable. D'autant plus que on pourrait dire que le premier motif de réviser un schéma d'aménagement, c'est qu'on constate que le portrait est différent. Les enjeux sont différents. Il y a des nouveaux enjeux, puis on doit adapter, évidemment, nos outils d'urbanisme et d'aménagement. Bon, d'abord, le schéma, ça fait un portrait du territoire, un portrait physique du territoire. Puis j'ai remarqué, c'est quand même intéressant, parce que je dirais une MRC normale, ailleurs sur le continent, la superficie de son territoire ne change pas.
Non.
Mais ici...
Oui, ici, ça peut.
Elle change, la superficie du territoire.
Vrai.
Tiens, en 2010, on parlait de 202 km². Pour aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on parle de 196 km². Donc, on a quand même perdu une portion de territoire. Puis bon, je pense qu'il faut l'associer à l'érosion des berges, assurément. Bon, maintenant, est-ce que d'autres éléments qui vont faire mettre à jour, est-ce que la forêt a régressé? Est-ce que le territoire forestier a régressé? Est-ce que le territoire agricole a régressé? Le territoire public, est-ce qu'il est différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a à peine 10-12 ans? Moi, je pense que oui.
Ben
dans le dossier du parc régional, l'exemple, on a dénombré qu'au niveau des activités récréotouristiques, on avait une vingtaine d'activités différentes sur l'état public. Donc, vous savez, c'est différent. Maintenant, si on parle de la population, au niveau démographique. Bon, ben, en 2010, au schéma d'aménagement, on parlait d'une certaine stabilité. On était prudent parce qu'on avait des années de régression derrière. Puis, on a quand même constaté qu'on avait franchi la barre des 13 000 habitants l'an passé, ce qu'on n'avait pas vu depuis 2008. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Par contre, au niveau du vieillissement de la population, ben, la portion du vieillissement de la population a augmenté. Et au niveau de l'âge médian, ben, c'est 54 ans ici, alors que le reste du Québec, c'est 42. Fait qu'il y a quand même une différence.
Ouais,
quand
différence.
On parle d'âge de population, de pyramide de population, bien évidemment, les services publics puis tout ce qui vient avec une population vieillissante, bien c'est un élément que tu dois tenir en compte quand tu fais de l'aménagement du territoire. Maintenant, au niveau de l'économie. En 2010, on avait encore le discours, bon, l'importance des transferts gouvernementaux, des emplois saisonniers. Ben, écoutez, aujourd'hui, là, si on parle de la pêche, là, ben, il y a 10 ans, là, on avait des retombées économiques juste au niveau du homard, là. Aujourd'hui, c'est 100 millions de retombées économiques, puis il y a 5 ans à peine, c'était à 40 millions.
Ouais.
Il y a eu des modifications au niveau du tourisme, c'est la même chose. En 2010, on parlait que, bon, le niveau de visiteurs annuellement se stabilisait autour de 45 000, 50 000 visiteurs. Ben, on sait tous qu'on a dépassé ça.
Ouais,
l'an passé, même en situation encore pandémique, on a accueilli 58 000 visiteurs. On parle plus d'une stabilisation autour de 60-70. Donc, c'est un impact sur l'aménagement du territoire. L'augmentation du nombre de villégiateurs. Des gens qui arrivent ici, puis bon, ils tombent en amour avec les îles de Madeleine, ça crée une propriété, un terrain ou une maison. Ça aussi, c'est en augmentation. Donc, c'est tous des données qui sont très différentes de ce qu'on avait en 2010, puis qui nous amènent à réviser notre schéma d'aménagement au niveau de la construction. Probablement le lien le plus direct entre aménagement du territoire et activité économique, ben, écoutez, les nouveaux permis de construction en 2016, là, on en avait 39. En 2021, on en a émis 83. évidemment, c'est une pression sur le territoire dont on doit tenir compte. Puis ça a un impact sur le paysage, ça a un impact sur les services publics, ça a un impact sur la façon dont l'habitat est déployé sur le territoire aussi. Bon, puis le changement majeur, ben, écoutez... On parlait en 2010, comme je vous disais tantôt, d'un taux de chômage, dépendance des transferts gouvernementaux. Aujourd'hui, on sait qu'on a 1500 postes vacants à combler dans
c'est
notre
fou,
économie.
Hein? On ne se serait jamais imaginé
qui
ça.
Qui aurait imaginé ça au niveau des pêches? Qui aurait imaginé il y a 10 ans à peine qu'on entendrait parler espagnol du piste cyclable parce qu'il y a des Mexicains qui sont venus travailler dans nos usines. Hein? Mm. Qui aurait pu imaginer ça? Ben, donc, c'est des changements quand même majeurs. Pénurie de main-d'œuvre, pénurie de logement.
Ouais.
C'est tous des thèmes qu'en 2010, il y a 12 ans à peine, on ne discutait pas. Les infrastructures publiques, c'est la même chose. On doit mettre ça à jour, les infrastructures publiques. Plus de construction, ça égale quoi? C'est au niveau des traitements des eaux usées. Nos bassins d'épuration là, des égouts collecteurs municipaux, il y a une capacité maximale de réception qui avait été prévue quand ils ont été construits.
Ouais.
On est rendu où avec ces infrastructures-là? Donc, il y a des travaux probablement majeurs à prévoir au niveau des infrastructures publiques. Donc, ça se planifie, ça, dans un schéma d'aménagement. Et, bien sûr, on doit parler de patrimoine, des territoires d'intérêt. Tu sais, aux Îles-de-la-Madeleine, on a beaucoup de territoires d'intérêt là, qui ne sont pas de notre initiative. Prenons la Pointe-de-l'Est, l'Île-Brion.
Ouais.
Ça a des statuts particuliers en termes de protection du territoire. Les habitats floristiques et les oiseaux, tu sais, des fois, on dit ça, c'est un peu encombrant, toutes ces législations-là. Bien, elles sont là. Mm-hmm. Elles ont été imposées par le gouvernement. Puis on doit, évidemment, les respecter. Et il y a des... Au-delà du portrait du territoire, il y a des éléments que la loi nous oblige à mettre dans un schéma d'aménagement, c'est identifier, exemple, les zones de contrainte particulières.
Okay.
Bon, aux Îles-de-la-Madeleine, des zones de contrainte particulières, je pense que le littoral, à cause des changements climatiques et de l'impact que ça a sur le recul des berges, mais évidemment, ça doit être identifié. Protection de nos puits municipaux, organisation du transport. On doit aussi parler d'organisation du transport terrestre. Puis nous, aux Îles-de-la-Madeleine, ben, dans le schéma de 2010, on va le refaire en 2022-2023, on a ajouté à ça transport aérien et transport maritime. Parce qu'on ne peut pas parler aux Îles-de-la-Madeleine d'occupation de territoire sans parler de ces deux éléments-là qui sont majeurs. Et Dieu sait qu'on en parle, hein, ces temps-ci.
Certainement.
La façon de communiquer avec le continent. Et puis, finalement, le chemin d'aménagement, un volet où ce qu'on doit édicter certaines normes de base qui vont être imposées aux municipalités locales. Bon, ici, c'est pas très compliqué parce qu'on a deux municipalités locales. Puis nous, en principe, la communauté maritime, mais quand je parle à la municipalité des îles, mais je parle à mon collègue qui est assis à côté de moi. Sauf que dans une MRC, je dirais, plus normale, ben, c'est un regroupement de 15, 20, des fois 25 municipalités différentes. Donc, il y a des normes régionales qui sont décrétées puis imposées aux municipalités locales. Donc, le contenu d'un chemin d'aménagement, c'est faire le portrait du territoire et identifier les enjeux. Tout ce qu'on vient de dire là, ça va déboucher sur des enjeux.
Ben oui.
Pénurie de logement, s'il faut rajouter du logement pour accueillir les personnes qui vont venir combler les 1500 emplois, physiquement, il faut les mettre quelque part. De quelle façon qu'on les développe, à quel endroit, quel type de bâtiment qu'on veut avoir, c'est tous des questions qu'on doit se poser, puis qui sont régies par ce qu'on appelle les outils d'urbanisme, chemin d'aménagement, plan d'urbanisme ou encore règlement de zonage. Quand on a identifié ces enjeux-là, après ça, il faut y trouver des solutions, proposer des solutions.
Ah oui.
Puis là, on arrive dans une autre partie du chemin d'aménagement qu'on parlera dans notre prochaine chronique. Ça s'appelle les grandes orientations d'aménagement et les affectations des sols. À ce moment-là, on vient décider un peu au fait quoi, où, de quelle façon. Quand je disais à la première rencontre que les décisions qui sont prises à l'intérieur d'un chemin d'aménagement, ça vient toucher le quotidien éventuellement des résidents, ben on en a la preuve là. On vient de déterminer comment on va développer notre territoire. Donc, évidemment, ça va nous toucher dans le quotidien éventuellement.
Ben oui, certainement.
Et je rappelle aussi que l'opinion des gens, très important, et il y a une tribune là, qui a été faite spécialement en début de processus pour qu'on aille chercher aussi dans la population c'est quoi, selon eux, les enjeux. Puis on a mis un sondage en ligne, il y a déjà 460 répondants.
Oh. Wow,
ce qui
c'est
est
bien.
Très intéressant, oui. Donc, quand tu sais, ça fait une semaine qu'il est en ligne, le sondage, on a déjà 460 répondants. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça préoccupe les gens. Notre territoire, l'occupation du territoire, l'avenir de notre territoire, ça préoccupe les gens, puis c'est de bon augure. Et j'invite ceux qui ne l'ont pas fait à aller le faire, à remplir le sondage, parce que nous, on peut identifier certains constats, certains enjeux. est-ce qu'on est bien connecté? Moi, je pense que je connais un peu les enjeux du territoire par ma profession, puis je suis là-dedans la journée longue.
Ouais.
Ben, peut-être bien que je suis trop là-dedans aussi. peut-être bien que j'ai le nez dans le miroir, ouais. comme on dit, le nez dans la fenêtre. Mm-hmm. Fait que des fois, faire un sondage comme ça, puis sortir des grands constats de ce que les gens nous disent, ça peut nous amener ailleurs, ou ça peut nous aider à avoir une vision différente de ce qu'on aurait peut-être préconçu selon des données. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais.
Fait que c'est important d'émettre son opinion. Il y aura des consultations publiques plus, je dirais, officielles et standards. Là, des rencontres, parce qu'éventuellement, on va-tu pouvoir faire des rencontres, on l'espère.
On le souhaite,
mais il y aura des rencontres probablement thématiques sur des thèmes précis. Puis ce qui va sortir du sondage, bien, va nous permettre d'identifier les thèmes que les gens veulent jaser.
Okay. Ouais.
Fait que je pense que, comme je disais à Annie la semaine dernière, la loi prévoit une consultation publique à la fin quand le document y est rédigé. Bon, c'est la loi, mais des fois, il faut aller au plus loin. Mm-hmm. Il faut aller au-delà de ce que la loi exige. Puis nous, ben, on va écrire le chemin d'aménagement aussi en mettant un input dès le départ de ce que les gens ont comme préoccupation. Fait que ça risque juste. Tout ce qui peut arriver, là, c'est que le document reflète encore mieux les préoccupations du milieu. Ah. Fait qu'on invite les gens à répondre au sondage. Et la semaine prochaine, je vous arrive, on arrive encore dans le plus précis de ce que c'est un chemin d'aménagement avec deux grands thèmes, les orientations et les affectations du sol.
Excellent.
Merci beaucoup, Serge.
Merci.
Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.
Bye.